Alors, le thème de mon matin, je vais continuer, en fait, je vais poursuivre par rapport au dernier message que j'avais fait, et le thème, c'était « Réveiller pour le rester ». Et on va poursuivre ensemble, en fait, ce message, mais je vais rafraîchir un peu notre mémoire, parce que je suppose que de l'eau est passée sous les ponts et qu'on a besoin de se remettre un peu en éveil par rapport à ce que j'avais pu partager la dernière fois. Et donc, au cours de mon dernier message, on avait vu en fait que le Saint-Esprit nous réveillait spirituellement lorsque nous confessons que Jésus est Seigneur de notre vie, quand on le confesse comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, c'est parce qu'il y a un réveil spirituel. Et on pourrait le comparer, ce réveil spirituel, à un réveil physique. Quand on est couché, quand on dort et que le réveil sonne, on se lève et on se met debout et on s'affaire pour notre journée. Eh bien, quand le Saint-Esprit nous réveille, eh bien, on s'affaire aussi pour les choses de Dieu. On rentre dans la destinée que Dieu nous a donnée et on dévoue nos vies. On parlait ce matin de dévotion, de la dévotion de Jésus. Mais nous, on a une dévotion aussi envers Dieu pour ce que Jésus a fait pour notre vie par rapport à son sacrifice. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, l'apôtre Paul, parlera carrément de résurrection. Et la parole de Dieu parle de la première résurrection. Et la première résurrection, c'est toi, moi, chacun d'entre nous qui sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie spirituelle. Et je souhaite reprendre Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, où l'apôtre Paul dira « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ce matin, tu es peut-être assis sur ta chaise, mais tu es assis dans les cieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous sommes réveillés, mais faut-il encore le rester? Et j'avais mis en évidence le fait que, ok, on est réveillé, on a ce réveil spirituel, mais finalement, en fait, le temps passe. Et avec le temps, les combats, l'adversité, les tentations, et puis oui, on espère en la vie éternelle, au jour où nous verrons Jésus-Christ face à face, mais on passe beaucoup de temps sur terre. Et donc, nous devions faire face à ces adversités, à ce temps qui passe, et on doit toujours renoncer, résister au péché. On doit faire travailler notre mémoire sur ce que, dans les temps d'adversité, sur ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Dieu nous disait d'avoir en souvenir ce qu'est l'Éternel pour nos vies. Et comme nous mettons des photos, des bons souvenirs familiaux, des bons moments passés entre nous sur nos murs à la maison, qu'est-ce qu'on fait de nos souvenirs avec l'Éternel quand les temps sont durs? Quelle arme prenons-nous? Et est-ce qu'on se revêt du casque et de la cuirasse? Et j'avais fini ce message en concluant sur une parole que Dieu nous avait donnée, et pour le coup, il y a un an quasiment, le 17 août 2022. Dieu nous avait dit, je veux vous remplir tout à nouveau, je veux vous remplir tout à nouveau. Levez-vous, levez-vous, vous n'êtes pas seul, je suis avec vous, accomplissez les œuvres auxquelles je vous ai appelé. Vous aurez la victoire, prenez les armes spirituelles. Et Dieu avait dit encore d'autres choses, mais je vais m'arrêter sur « Levez-vous, vous n'êtes pas seul, prenez les armes spirituelles. » Et je crois profondément que nous sommes réveillés, que nous pouvons le rester que si nous savons manier les armes spirituelles que Dieu nous a données. Et donc, en cela, ce sera ma deuxième partie. Mais avant d'attaquer les armes spirituelles, j'aimerais nous dire et nous rappeler et nous encourager ce matin que dans ton adversité, dans tes combats, dans tes luttes face au péché, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Matthieu 28, verset 20, Jésus nous a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. jusqu'à la fin du monde, jusqu'à notre mort, Jésus sera avec chacun d'entre nous dans toutes tes adversités. Eh bien, Dieu est là, il est avec nous. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui, celui qui est à tes côtés. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Christ qui a vaincu l'ennemi de ta vie, qui a vaincu l'ennemi de nos âmes. Amen. Celui qui est à tes côtés, et on va prendre Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23, Paul dira de lui qu'il l'a déployé, donc quand il dit « il l'a déployé », c'est la force de Dieu a été déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Celui qui est à côté de toi, c'est le chef suprême. C'est celui à qui on a donné le nom qui est au-dessus de tout entre nous, dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte ce matin de celui qui est à côté de nous. Hébreux 2, verset 14, il est dit de lui que par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est Jésus-Christ qui a anéanti le diable, qui est à côté de toi jusqu'à la fin de tes jours. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, il est dit qu'il a dépouillé les dominations. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu te rends compte ce matin que celui qui est mort pour ta vie a anéanti toute puissance des ténèbres. Il est le chef suprême, le vainqueur pour nos âmes, le vainqueur face à l'ennemi. Il n'y a pas de no man's land, c'est soit on appartient à Dieu, soit on appartient au diable, et on a pour père soit Dieu, soit pour père le diable. Et nous sommes connus spirituellement. Tu es assis dans les cieux célestes. Satan sait que tu es assis dans les cieux célestes avec Christ. Il sait qui est ton chef. Il sait qui est ton Seigneur. Il sait qui est ton Sauveur. Et Satan sait aussi pour ceux qui n'appartiennent pas à lui. Et on ne va pas prendre le passage, mais vous avez peut-être tous en mémoire ceux qui vont tenter, les Juifs qui vont tenter. Ils ont vu les disciples tenter de délivrer des gens, pouvoir vraiment libérer des gens de mauvais esprits. Ils vont se dire, on va faire la même chose. Sauf qu'ils n'avaient pas confessé le nom de Jésus. Alors le mauvais esprit dira, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Nous sommes connus dans le monde spirituel. Et nous devons avoir cette conscience que nous sommes connus et que Christ est avec nous. Alors, il y a ce combat spirituel, il y a ce combat face à Satan. Et c'est vrai que Satan est rusé. On l'appelle le malin, c'est pas pour rien. Et je crois qu'une de ses premières ruses, eh bien, c'est de se faire passer sous silence, de faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Tu fais de la magie, tu fais de la sorcellerie, c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Tu voles, tu fais des péchés, c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Après tout, on ira tous au paradis, hein, comme la chanson qui dit « on ira tous au paradis ». On fait croire en fait que tout ça, c'est que dans les contes inventés pour les enfants, pour faire peur. Alors qu'en fait, chaque choix, chaque acte que nous faisons a des conséquences spirituelles. Mais c'est maquillé, c'est déguisé. Puis on n'aime pas le nommer. Et un jour, lorsque j'étais au travail, il y avait une jeune femme qui était là, qui faisait son stage de fin d'études. Puis on commençait à parler doucement, parce que je venais d'arriver, donc je n'ai pas non plus arrivé tambour battant et commencé à raconter. Enfin, ouais, il faut être sage aussi, même quand on veut parler de Dieu. Et elle-même, en fait, va se mettre à me poser des questions. Finalement, une porte va vraiment s'ouvrir pour que je puisse lui parler du Seigneur. Et c'est marrant parce qu'un midi, en fait, elle va clairement me parler d'oppression qu'elle vit, mais elle ne savait pas ce que c'était. Et donc, elle va me raconter, en fait, que voilà, parfois, certaines nuits, elle se retrouve vraiment oppressée avec la gorge qui est vraiment nouée, où elle n'arrive plus à respirer, où elle a l'impression qu'elle va y passer, quoi. Et donc là, je sentais en moi l'esprit de Dieu s'animer en disant, tu dois dire qui est derrière ça, tu dois le démasquer. Et donc, je lui ai dit, je fais, écoute, ce que tu vis là, eh ben, c'est quelque chose de satanique, il y a Satan derrière. Je ne sais pas, peut-être que tu as touché à des choses, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans ta vie où l'ennemi veut t'embêter, mais c'est quelque chose où derrière, c'est Satan, il vient t'embêter. Et on doit le nommer, on ne doit pas avoir peur de le nommer parce que la Bible le nomme, la Bible en parle. Et si la Bible en parle, nous devons en parler, nous devons nommer les choses, nous ne devons pas avoir peur de dire qui est Satan, ce qu'il fait et quelles sont ses ruses. Parfois aussi, la ruse de l'ennemi, c'est au contraire de te faire croire qu'il est partout et que tu es son pantin. Tu le vois à travers tout, tu le vois partout, il t'arrive le moindre pépin, tu te dis c'est lui, tu te dis tu es malade, tu te dis que c'est lui, il t'arrive tel combat, tu te dis que c'est lui, ta chaudière tombe en panne, c'est à cause de lui, tu dors mal la nuit, c'est à cause de lui. Alors que parfois, non. Et heureusement, nous ne sommes pas sous le pantin du diable. Et ça, je pense que certains, vous devez l'entendre ce matin. Vous n'êtes pas le pantin de Satan. Vous n'êtes pas son pantin. Vous avez une force en Dieu. Vous avez une force en Dieu. Dieu vous a donné une force pour lui résister parce que lui, il a vaincu. Il a vaincu à la croix. Il lui a écrasé la tête. Amen. Et nous, nous avons nos responsabilités, nos choix à faire. Et parfois, on entend « Ah, ce petit Jésus, hein, le petit Jésus, vous savez, le petit Jésus dans les dragées qu'on offre parfois à Pâques. » Et parfois, quand les gens veulent nous embêter, moi, je me souviens, au travail, parfois, on chantait comme ça « Le petit Jésus ». Et on passait à côté de moi, on faisait « Le petit Jésus » quand les gens étaient énervés. Mais s'ils savaient qui était le petit Jésus. Mais Jésus, il est grand, il est puissant. Et une des ruses du diable, eh bien, c'est de nous rendre incrédules. Vous savez, le fameux « vraiment ». Dieu, il t'a vraiment dit ça? Tu es sûr que Dieu t'a dit ça? Parce que franchement, quand tout va bien, bah, c'est facile de proclamer la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Mais finalement, quand les combats arrivent, quand l'adversité est là, est-ce qu'on arrive encore à proclamer, à avoir la certitude et l'espérance dans ce que Dieu nous dit? Alors oui, Satan va venir mettre des doutes, il veut nous accaparer notre cœur, il veut voler notre joie, il veut voler notre paix, il veut voler notre assurance en Dieu. Suis-je encore l'enfant de Dieu, malgré tout ce qui m'arrive, dans ces oppressions, dans ces combats, et même les oppressions, et ça arrive d'en avoir, quand parfois aussi l'ennemi il veut venir nous embêter, il voudrait nous faire croire en fait qu'il a encore autorité sur nous. Et moi, c'est ce que j'ai appris dans des oppressions, et je demandais à Dieu, et Dieu me disait, mais en fait, les oppressions sont là aussi pour nous, chrétiens, en fait, nous faire croire que Satan a encore pouvoir sur nous. Il veut nous faire croire en fait qu'il est plus fort que Christ, ou qu'il a du moins au moins la même force. Il veut nous mentir. Il veut nous faire peur. Il veut nous intimider. Parfois aussi, Satan va agir dans les séductions. La séduction selon les biens de ce monde, selon les richesses de ce monde. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le monde est bâti, le système, l'humanité est inspirée et est sous le contrôle de Satan. Parce que oui, il l'a vaincu. Il a vaincu à la croix, mais la parole de Dieu dit clairement qu'il lui a encore laissé du temps ici-bas. Et alors, la cinquième ruse, j'ai appelé ça le sabotage. Le sabotage, et notamment par rapport à la parabole de l'ivraie et du blé. Donc ça, cette parabole-là, on la retrouve dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Et la parabole livrée, en fait, il faut savoir que livrée vient du grec zizanion, et ce qui veut dire la zizanie, la dispute, la discorde, la mésentente. Et donc là, Jésus leur propose une parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et il faut reconnaître que l'ennemi est là pour venir saboter. Pour venir saboter le champ, l'œuvre de Dieu, il veut saboter tout ce qu'il pourra saboter. C'est un saboteur. Il veut saboter nos relations, il veut saboter notre foi, il veut saboter nos familles, il veut saboter notre fraternité, il veut tout saboter, il veut détruire, il veut voler, il veut tuer. Et finalement, avec toutes ces ruses, eh bien, nous pouvons nous retrouver aveuglés, on peut avoir comme un voile sur les yeux. On peut aussi se mettre finalement à plus entendre ce que lui dit au détriment de la parole de Dieu, de la voix de Dieu et de l'autorité de Dieu dans nos vies. Et c'est ce que Dieu nous a dit la semaine dernière. Il nous a dit, en fait, vous mettez des sourdines sur vos oreilles. Et mettre en sourdine, ça veut dire baisser le son. Parfois, on baisse le son de Dieu, de la voix de Dieu, au bénéfice de la voix de l'ennemi. Et ça, je vous avoue que c'est Dieu qui m'a donné cette parole au milieu de nous dimanche dernier, mais je lui ai demandé de me donner la suite de la parole prophétique qu'il avait donnée il y a un an. Je disais à Dieu, je fais, ça fait un an que tu as donné cette parole-là. Si tu as une suite, donne-la-moi. Et quand Dieu a parlé la semaine dernière, j'avais cette certitude que c'était la suite de cette parole par rapport au fait qu'il nous dit de nous lever, de prendre les armes spirituelles et que nous ne sommes pas seuls. Attention au voile que l'ennemi veut mettre sous nos yeux et attention aux sourdines qu'il veut mettre sur nos oreilles. Et il est intéressant en fait de voir que Jésus-Christ a fait une pleine conscience de ce que l'ennemi veut faire pour les disciples de Christ. Luc 22, versets 31-34, Jésus parlera à Pierre en ces mots. Il dira « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Alors, cribler comme le froment, eh bien, ça veut dire, donc là, au sens figuré pour la parole de Dieu, ça veut dire renverser la foi. Il veut renverser notre foi. Et Jésus dira, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et que quand tu seras converti, alors le mot converti, ce n'est pas que Pierre n'était pas déjà venu à Dieu, ça veut dire quand il sera revenu, tu affermiras tes frères. Jésus, qui savait qu'il allait aller sur la croix, qu'il allait vaincre Satan, dira, il va vous passer au crible. Alors oui, chacun d'entre nous, et je crois que c'est aussi le projet de Dieu, de Satan, pour nos vies, c'est qu'il veut nous passer au crible. Dans nos épreuves, dans nos combats, il veut nous passer au crible. Est-ce que ça veut dire que Satan a autorité sur nous ? Non, sauf si on lui ouvre des portes. Est-ce qu'il est à l'origine de toutes les épreuves dans nos vies ? Non, mais par contre, dans nos épreuves, il veut renverser notre foi. Il veut nous faire basculer. Et son plus grand désir, c'est qu'on s'éloigne de Dieu et qu'un jour, on ne confesse plus le nom de Jésus dans nos vies. Son plus grand désir, c'est que nous ne soyons plus ensemble, que l'Église ne se réunisse plus. Son plus grand désir, c'est de tuer l'Église, de tuer. Il a voulu tuer auparavant le peuple d'Israël. Il a voulu tuer, il voudra tuer jusqu'au bout le plus grand nombre. Qu'un plus grand nombre ne vienne pas à Dieu et que ceux qui sont donnés au Seigneur perdent leur foi. Il veut renverser notre foi. Alors face à ce renversement, eh bien, il faut trouver la solution avec les armes spirituelles. Les armes spirituelles dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 6, versets 13 à 17. Et il est dit, la première arme, il est dit, ayez à vos reins. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et je vais aller arme par arme. Ayez la vérité pour ceinture. La vérité, doit régner dans nos vies, doit régner dans nos relations. On ne peut pas se dire de Dieu et passer notre temps à mentir, être dans la fausseté, être dans l'hypocrisie, être dans la duplicité. Nous devons être droits devant Dieu, droits les uns envers les autres. Et nous devons aussi être vrais avec nous-mêmes. Parce que quand notre ego nous flatte, et lorsque nous lisons la parole, si on est trop flatté par notre ego, on n'est même plus capable d'entendre ce que l'Éternel veut nous dire, là où il veut nous aider à progresser. La parole de Dieu, Christ qui est lumière, nous demande de mettre notre vie à sa lumière, de mettre notre vie à la lumière de Christ. Il est important de confesser nos péchés à Dieu et de confesser, si Dieu te le demande, les uns aux autres, afin de demeurer réellement libres. Et je crois que parfois nous ne sommes pas libres parce que notre vie n'est pas venue en lumière devant Dieu, parce qu'on a laissé cacher des choses et parce qu'on n'est pas en vérité les uns par rapport aux autres. Sauf que la vérité nous rend réellement libres. Et tu es libre de confesser tes péchés à Dieu parce qu'il est fidèle et juste pour te les pardonner. La deuxième arme spirituelle, il est dit « revêtez la cuirasse de la justice ». Jésus-Christ, en allant sur la croix, il a vaincu l'ennemi de nos âmes, mais il s'est fait justice pour chacun d'entre nous. Et ce fait, il a fait justice pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que finalement, par rapport à tous ces péchés, par rapport à toute cette noirceur du monde, tout ce péché par rapport à la sainteté de Dieu, comme il est dit, comme nous parfois on le scande, il faut la justice, il faut la justice. Mais qui fera la justice? Parfois on s'attend à la justice terrestre, à ce qu'un verdict soit rendu, on dit que justice soit faite. Justice a été faite par Jésus-Christ. Lui, l'agneau parfait, a été sur la croix et il s'est fait justice pour chacun d'entre nous. Il a ôté la condamnation qui était sur nos vies en allant sur le bois du calvaire. Romains 5, verset 18, parle de cette justice. Il est dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. À tout homme qui confesse, à toute femme qui confesse le nom du Seigneur, eh bien, tu es justifié auprès du Père. Et nous avons à prendre cette cuirasse de justification. Cette justification, tu es justifié par rapport à ta vie passée, par rapport à notre chemin jusqu'à la fin de nos jours. Nous sommes justifiés par Christ à la croix du calvaire. Nous aurions dû aller sur le bois. Nous aurions dû aller sur le bois, c'était notre place, mais il s'est fait justice pour nous. Et c'est notre cuirasse dans notre marche chrétienne. Amen. La troisième arme, si on peut revenir, je suis désolée, je fais naviguer. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et je trouve ce qui est intéressant dans cette arme, c'est que le zèle ne dépend pas de notre personnalité. Ça ne dépend pas de notre caractère. C'est un zèle qui vient tout droit de l'évangile de paix. Alors ce matin, où est ton zèle? Et le zèle, ça veut dire être bouillant. Ça veut dire être chaud pour le Seigneur. Ça veut dire être rempli de bonnes dispositions pour servir l'Éternel. Et c'est un zèle qui est donc indépendant de notre caractère, de notre personnalité. Peut-être que dans ta personnalité, tu es plutôt nonchalant. Peut-être que tu es plutôt un cool, mais ça n'empêche que le zèle du Saint-Esprit vient dans ta vie et te remplit pour les œuvres qu'il t'appelle, auxquelles il t'a appelé. Amen. Mais ce zèle aussi, pour que nous puissions donner de bons fruits pour l'œuvre de Dieu, il est important en fait de le comparer au zèle amer dont Jacques en parle au chapitre 3, versets 13 à 18. Et il est dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, elle est pacifique, elle est modérée, elle est consignante, elle est pleine de miséricorde et elle porte du bon fruit, exemple de toute duplicité et de toute hypocrisie. Et je crois que parfois, il faut se mesurer par rapport à la parole de Dieu et nous dire, « ok, je suis zélé pour les œuvres de Dieu, mais quelle est la source de ton zèle ? Quelle est la source de ton zèle ? Est-ce que tu es animé d'un esprit de dispute, de revanche, de compétition, de domination, de vouloir écraser ? Ou est-ce que tu es animé de cette douceur, c'est-à-dire la douceur de l'esprit, la douceur qui est une bonne disposition de cœur, même pour ton prochain, pour être dans des motivations pures, dans des motivations qui seront pacifiques, qui seront modérées, qui seront conciliantes, qui seront pleines de miséricorde. Et il est important de se poser la question si par rapport à notre zèle qui nous anime, si nous portons du bon fruit. Parce que finalement, un mauvais zèle ne portera pas de bon fruit. Et je crois que ça peut être un très grand leurre spirituel dans nos vies et dans la vie de l'Église. Je crois que ça peut être une très grande séduction pour notre ego d'être zélé pour l'œuvre de Dieu, mais n'en oublier que si nous n'avons pas la bonne source qui est l'évangile de paix, alors nous nous trompons de combat. Paul lui-même dira qu'il était zélé pour les choses de Dieu, mais il se trompait de combat au point de mettre des chrétiens en prison. Les pharisiens étaient zélés, mais ils n'avaient rien compris à l'amour de Dieu, rien compris à la miséricorde. Ils ne voyaient même pas que le Christ qui était devant eux était bel et bien le Christ, le Sauveur, celui qui allait sauver l'humanité. Ils étaient aveuglés par leur zèle religieux. Et parfois, nous pouvons être aveuglés par notre propre zèle, parce que ça nous rend fort, parce que ça nous déploie, parce que nous nous accomplissons. Mais finalement, ça ne représente pas le cœur de Dieu. Et je crois que parfois l'Église souffre cruellement de ce zèle-là, de ce zèle amer. Parce que ça détruit nos relations, ça détruit l'œuvre. Et nous ne portons pas de bons fruits. La quatrième arme, il est dit, le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que si tu ne crois plus, si tu n'as plus foi en la justice de Dieu, en la justification, non pas par les œuvres, mais par le sacrifice de Jésus, l'apôtre Paul dira déjà, tu te ôtes de la grâce de Dieu pour ta vie. Tu tombes à côté de la grâce de Dieu. Sur quoi est basée ta foi aujourd'hui? Sur quoi t'appuies-tu? Est-ce que ta foi vient de ce qu'on entend et ce que tu as entendu, est-ce qu'elle vient de la parole de Dieu? Ou as-tu mis des sourdines sur ta foi? Est-ce que ta foi bascule sur la justification par les œuvres et non plus par le sang de Jésus? Est-ce que tu arrives encore à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient? Est-ce que tu espères encore dans les promesses que l'Éternel t'a données à toi personnellement, ce réma, vraiment cette parole inspirée de Dieu pour ta vie? Parce que si tu n'as plus la foi, alors tu t'arrêtes de marcher. Si tu n'as plus la foi, tu t'arrêtes de marcher. Et je ne sais pas vous, mais quand on observe, dans des émissions, j'ai jamais été à côté d'un lion, mais dans les émissions, ils disent clairement que le lion, il va chercher la proie la plus faible. Il ne va pas courir après le plus rapide, il va courir après l'animal le plus faible. Un petit gibier là qui s'est ralenti dans sa marche, et je le croque. Ton espérance et ta foi va te gouverner, va te donner de l'élan, va diriger ta vie. Va diriger ta vie jusqu'à ton dernier souffle à espérer en la vie éternelle en Jésus-Christ. Et j'en viens à la cinquième arme qui est le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut, enfin l'avant-dernière arme, pardon. Le casque du salut protège ta tête des pensées de l'ennemi, des pensées de la chair. Ça éloigne toute pensée de condamnation, toute pensée de culpabilité. Parfois, et ça a été dit ce matin, tu n'as même plus l'assurance d'être enfant de Dieu. Tu n'as même plus l'assurance, parfois certains se retrouvent à ne même plus avoir l'assurance de la vie éternelle, d'avoir vraiment cet agrément de Dieu dans l'adversité, pensant que les épreuves sont une façon de Dieu de lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois, ça arrive, effectivement, on peut avoir une correction de Dieu. Mais là, le casque du salut, ça doit nous donner l'assurance que nous sommes sauvés. Que ton passé a été enseveli à la croix avec Christ. Alors, tu ne peux pas empêcher les... C'est comme les oiseaux. J'aime bien cette comparaison. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid. Les pensées, c'est pareil. Elles peuvent arriver, mais tu peux ne pas les nourrir. Et si tu ne les nourris pas, eh bien, tu gagnes. Et parfois, c'est... Je n'ai pas envie de dire juste parce que ce serait simplé, mais mettre le casque repousse l'ennemi sur nos pensées. Dernière arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme contre l'ennemi. Alors, connais-tu la parole, mais pas comme un flot d'informations où tu es rempli d'informations, mais connais-tu cette parole qui t'anime, qui te donne de l'élan, la foi face à l'ennemi, la foi dans l'adversité, la foi dans l'épreuve, la foi de pouvoir être en règle avec Dieu, cette parole de Dieu qui va t'aider à grandir, à se perfectionner dans nos relations fraternelles. Est-ce que nous laissons cette parole être un miroir et percer notre cœur? Parce que je suis aussi convaincue que plus nous laissons la parole de Dieu percer nos cœurs, plus nous sommes capables de la retourner contre l'ennemi et viser juste. Mais si on ne sait pas la manier, si on ne laisse pas, si finalement la parole de Dieu est juste superficielle sur nos cœurs, tu la verras dans le camp de l'ennemi avec superficialité. Et c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Alors oui, nous ne sommes pas là pour être remplis de grosses têtes théologique, mais la parole de Dieu est une arme contre les puissances des ténèbres, contre l'ennemi de nos âmes. Et Jésus-Christ, quand il a été tenté dans le désert, il a cité la parole de Dieu. Il n'a pas dansé des claquettes, il n'a pas parlé en langue, il a cité la parole de Dieu, même si le parler en langue est pour nous fortifier, mais il a cité la parole de Dieu. Il a dit « Il est écrit ». Est-ce que nous sommes capables, quand l'ennemi vient, de dire « Il est écrit telle et telle chose, point, barre. » Et ça s'arrête là, aucune discussion possible. Il n'a pas douté, il n'a pas dit « Attends, faut que j'aille voir, alors attends, c'est dans quelle page, c'est dans quel livre, peut-être que... » Non, c'est « Il est écrit, avec certitude, avec assurance. » Mais il faut aussi manier la vraie épée et ne pas tomber dans les fausses doctrines, parce que les fausses doctrines sont aussi un coup d'épée dans l'eau. Et par contre, la doctrine de Christ, eh bien, renverse les œuvres et la forteresse de l'ennemi. Amen. Alors, je ne veux pas être sur les Yakov au con, parce que c'est très facile du haut de la chair de dire bah, « Prends les armes, fais ci, fais ça. » Et je sais que pour beaucoup... Vous êtes dans des tribulations, dans des adversités, dans des combats. Il y a des problèmes de santé, il y a des infirmités. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, que vous ne savez pas manier les armes. Et j'aime beaucoup, en fait, l'apôtre Paul qui dira, en fait, aux Corinthiens, et c'est un peu, alors qu'il avait l'onction apostolique, il était apôtre, il était plein de foi. Mais sa vie, eh ben, elle ne reflète pas forcément le spectaculaire ici-bas que le monde voudrait qu'on en vit, en fait. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 11 à 13, il dira « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, nous sommes injuriés, mais nous bénissons. Persécutés, nous supportons encore. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » L'apôtre Paul, qui nous dit de prendre les armes, qui avait une onction incroyable, qui a fait des œuvres incroyables pour l'Éternel, se qualifiera par rapport aux yeux du monde, comment le monde le regardait. Balayure, ça veut dire une ordure, un déchet. Je ne sais pas vous, mais je pense que le monde aujourd'hui traite l'Église et traite les choses spirituelles de Dieu comme des déchets. Et peut-être que tu es dans cette soif-là, cette faim-là, physique aussi, cette nudité. Tu n'as peut-être pas assez de choses pour, réellement pour toi-même, pour ta vie, pour tes enfants. Tu as peut-être été maltraité, tu as peut-être été errant. Tu as été calomnié, tu as été injurié. Mais dans toutes ces choses-là, tu peux demeurer victorieux et tu restes victorieux si tu manies les armes de l'esprit, si tu manies les armes que Dieu t'a données. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, ce que je veux dire, c'est que le monde nous fera toujours que nous sommes dans la défaite, nous, l'Église, et jusqu'à la fin du monde. Et Satan voudra toujours nous faire croire que nous sommes dans la défaite, qu'il faudrait que ce soit autrement, que l'Église soit autrement, que l'onction soit autrement, que les victoires se manifestent autrement, que nous soyons dans un évangile de prospérité, que nous soyons sans épreuve, que nous soyons tout le temps bercés par les flots, que nous soyons tout le temps remplis de tout dans nos vies sans aucune douleur. Et ça, c'est une fausse victoire. Le monde est emprisonné dans ces choses-là et aveuglé dans ces choses-là. Ah oui, peut-être que tu as faim, peut-être que tu as soif, peut-être que tu es dans cette espèce de nudité où il te manque des choses, peut-être que tu as été injurié, peut-être que tu es calomnié sur ton lieu de travail, dans tes relations, peut-être que ta famille t'a rejeté à cause de la foi que tu as en Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a été aussi et par beaucoup de monde. Mais il était victorieux. Alors finalement, quels sont les signes de la victoire ? Les signes de la victoire dans ta vie, ce sont déjà, et premièrement, c'est l'autorité de Christ dans ta vie. L'autorité de Christ dans ta vie, l'autorité de Christ aussi pour les chefs de famille. Le fait que tu arrives à comprendre et que tu arrives à manier les armes et que tu n'es plus le pantin de l'ennemi, que tu n'es plus le pantin de Satan. Quelqu'un qui est victorieux, c'est quelqu'un aussi qui est responsable. Qui se sent pleinement responsable devant Dieu, qui ne fait pas l'autruche, qui ne dit pas c'est la faute de l'autre, c'est tout le temps la faute de Satan, qui est responsable devant Dieu, qui ne se dédouane pas dans ses fautes afin de pouvoir être rectifié, afin de pouvoir manier aussi l'épée pour sa propre vie et marcher en vérité. C'est de marcher aussi dans le discernement, la révélation, animé d'un bon zèle, rempli de douceur, de pureté, de sainteté, de bienveillance. Tu ne te laisses pas voler ta vie, tu ne laisses pas de désordre dans ta vie, tu n'ouvres pas des portes à l'ennemi. Et tu ne laisses pas non plus ton cœur emprisonné dans les choses du passé, dans les émotions. Et ce que j'avais sur mon cœur ce matin, c'est que pour certains, vous savez pardonner de Dieu. Mais vous passez, quand vous arrivez dans des temps de louange, dans des temps dans la parole de Dieu, plein d'émotions arrivent dans vos vies à cause des choses que vous avez pu faire dans le passé. Tu t'es trompé, tu t'es donné avant le mariage et toute la culpabilité revient. Tu te sais pardonner, mais ça revient et Satan, il te vole tes temps d'adoration. Et certains d'entre vous, vous vous êtes volés dans vos temps d'adoration parce qu'alors que vous voulez adorer Dieu, eh bien toutes vos émotions, les émotions de culpabilité, de honte reviennent dans votre cœur. Avoir l'assurance. Être victorieux, c'est marcher dans l'assurance de la justification par le sang de Jésus, par la foi au sacrifice de Dieu, et de jamais se laisser intimider par Satan, de ne jamais se laisser aveugler, de ne jamais laisser la voix de l'Éternel mettre en sourdine, mettre la sourdine sur la voix de l'Éternel. En lui, nous sommes victorieux, en Christ. Et alors que je voudrais inviter l'équipe de louanges à revenir, je voudrais te poser la question ce matin où tu en es dans ta persévérance avec Dieu dans les combats face à l'adversité. Peut-être que tu viens de découvrir la foi chrétienne et que tu es à tes premiers pas et tu manques peut-être encore d'assurance, mais sois sûr que l'Éternel va t'aider à prendre de l'assurance. Peut-être que alors que j'ai évoqué ce message, que j'ai apporté ce message, tu as discerné dans ton cœur des choses que l'ennemi t'a volées. Peut-être que Dieu t'a montré et t'a montré en fait des portes que tu as laissées ouvertes ou des portes que tu as réouvertes pour laisser Satan entrer. Parce que lui, il rôde. Comme j'ai dit, Satan rôde, il scrute nos moindres faits et gestes, nos paroles, et dès qu'il peut s'engouffrer, il s'engouffre. Et Dieu te demande ce matin de fermer les portes. Ferme les portes ce matin. Peut-être aussi, tu me diras, mais moi, Élise, je passe d'adversité en adversité, d'épreuve en épreuve. Je n'arrête pas de passer d'épreuve en épreuve et je n'ai plus de courage. Je dis oui, amen à tout ce que tu dis, mais je n'ai plus de courage. Je suis vidée. Et ce matin, l'Éternel te dit, je veux te fortifier. Parce que je t'ai dit que j'étais avec toi, que tu n'étais pas seule, et je t'ai demandé de prendre les armes. Et peut-être que les combats qui sont devant toi te font complètement flipper. Ce sont des montagnes, montagnes de la maladie, montagnes par rapport au monde professionnel, par rapport au domaine amoureux, ce sont des montagnes et tu fuis, tu voudrais te cacher. Mais prends les armes et viens à la lumière de l'Éternel. Et reprends des forces. Et peut-être qu'alors que je te parle, tu te dis, bah moi, en fait, je me suis endormie. Quand je parlais du zèle, tu dis, bah moi, effectivement, en fait, je n'ai peut-être jamais été trop zélée pour l'œuvre de Dieu ou je ne suis pas dans le bon zèle et je me suis endormie. Je me suis endormie sur mon ego, je me suis endormie, accaparée par les choses du monde et je n'ai jamais eu ce zèle-là dont la Bible parle d'être bouillant pour lui. Où je l'ai perdu au travers des combats, au travers de l'adversité. Et Dieu te dit, reprends ton zèle. Reprends ton zèle. Parce que si tu arrêtes d'être zélé pour l'Éternel, eh bien l'ennemi va venir. Parce qu'il prendra celui qui s'arrête de marcher, celui qui arrête de courir pour l'Éternel. Et l'Éternel va venir ranimer cela. Ne compte pas sur tes forces. C'est le zèle qui vient de l'Évangile. Alors ce matin, comme la parole de Dieu, que Dieu nous avait donnée l'année dernière, il disait « Lève-toi ». Et je voudrais te dire, Église de Dieu, si tu veux répondre à l'appel de Dieu sur ta vie, de prendre les armes spirituelles et d'être avec Christ, de marcher avec Christ dans le combat et l'adversité, lève-toi. Voulez-vous bien vous lever de votre place pour donner comme une réponse à l'Éternel ? Fais-le de tout ton cœur, pas parce que c'est Élise qu'il te demande, mais parce que l'Éternel nous l'a demandé. Il nous a dit, levez-vous, peuple de Dieu, et prenez les armes. Vous n'êtes pas seul dans le combat. Et je voudrais te dire à toi qui es fatigué et chargé, viens devant et nous allons prier pour toi parce que je suis convaincue que ce matin, l'Éternel veut renouveler les forces de son peuple. Toi qui es lassé, toi qui t'es endormi, viens ce matin. Viens ce matin et nous prierons pour toi, pour que tu puisses être renouvelé pleinement. Peut-être que tu as ouvert des portes à Satan. Et ce matin, c'est le temps de lui fermer les portes. C'est le temps de prendre l'autorité que l'Éternel t'a donnée. Amen. Alors pendant que le groupe de louanges va prendre un chant, je vous invite à ceux qui en ressentent le besoin de vous avancer. Et on priera pour vous avec les responsables, avec les pasteurs, avec les anciens de l'Église. Amen.